Bonsoir à tous. Pas de générique ce soir.
Bonne, je chante faux, donc j'évite.
Voilà.
Bonsoir, Kiaora, good evening. Vous êtes sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles d'Auckland et du reste du monde entier grâce à Internet. Ce soir, à la technique, Yvan. Bonsoir, Yvan.
Bonsoir.
Fred. Bonsoir. Qui va nous parler alors d'année de la lumière et puis d'orientation et comment se taper la tête pendant l'orientation.
Dans les branches.
Dans les branches. Et moi-même, Blandine, je vous parlerai du Writers and Readers Festival, de Human Flow, un documentaire qui va passer à l'Académie Cinéma cette semaine. Et puis un petit coucou à Charlotte de Perth qui nous a dit qu'elle nous écouterait peut-être. Donc si jamais tu nous entends, Charlotte, hola hola.
Tu nous manques.
Tu nous manques grandement. Yvan, tu commences avec quoi comme belle musique?
Avec le fils d'un disparu.
D'accord, c'est énigmatique.
On écoute.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse, elle absorbe. Jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber, ce n'est rien, puisqu'elle se relève. Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. La
Donc c'était Arthur Ashe.
Voilà.
Et alors le titre de la chanson, tu nous disais, c'est La boxeuse amoureuse, c'est ça?
C'est ça.
Et, et l'album?
Amour, chien fou.
Amour, chien fou.
C'est un double album.
Ouais. Très bon, tu nous disais.
Ah ouais, moi je pense qu'il faut l'acheter en vinyle. Hein.
Ouais, en vinyle carrément.
Ah ouais. Ah
bah ouais. Pour pouvoir l'écouter chez toi aussi.
Ah moi j'ai encore un tourne-disque.
C'est vrai.
Comme dire à mes enfants. Oh maman, t'as des grandes CD. Oh, oui, mon
chat. Ouais, bah écoute, moi j'ai toujours adoré chanteur, c'est très très agréable de le réécouter. Super sélection comme d'habitude. Bon. Alors, la lumière.
Alors, la lumière. Donc, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, ils ont sans doute entendu Stéphane parler très souvent.
Ouais, vous êtes assez accro de la journée de la lumière quand même. C'est surtout Stéphane, non?
Ouais, mais c'était d'abord l'année de la lumière,
oui.
En 2015.
Ah oui, d'accord.
Qui célébrait l'anniversaire de la découverte d'Einstein, de l'effet photoélectrique et tout ça. Et donc, c'est mondial, puisque c'est une journée déclarée par l'UNESCO. Il faut savoir que la personne à l'origine, c'est quand même un Kiwi qui vit en France maintenant, à Besançon. Donc, la Nouvelle-Zélande fait partie des pays privilégiés.
Ouais.
Et donc, il va y avoir l'ouverture. Donc, cette année, vu le succès de l'année de la lumière, ils ont décidé d'avoir une journée de la lumière. Qui est donc le 16 mai. Donc il y aura un événement spécial à Paris avec notamment John Dudley, que Stéphane avait interviewé en 2015, qui est donc un petit kiwi de papatouille et qui était prof à l'université d'Auckland avant de partir en France à Besançon. Et donc, pourquoi le 16 mai? Parce que le 16 mai, c'est le jour où il y a eu pour la première fois de la lumière émise par un laser en 1960 par un certain monsieur Mayman. Donc le laser, pour nous physiciens qui s'occupent de la lumière, c'est un peu magique parce que comme au moment où ça a été découvert, il y a plein de gens qui ont dit ouais, c'est en fait c'est une solution qui cherche des problèmes. Et de fait, ça a résolu beaucoup de problèmes. Mmh. Et si vous écoutez des CD, pour ceux qui écoutent encore des CD, c'est grâce à des lasers. Les Blu-ray, c'est grâce à des lasers et tout ça. Donc,
l'installation que tu avais organisée là, à OETA Center, ça,
c'était pour l'année de la lumière.
Pour l'année de la lumière, ça travaillait aussi avec la lumière. Aussi,
voilà. Ouais. Et donc le 16 juin, il y avait un événement aujourd'hui à Auckland, donc pour les enfants à l'université d'Auckland, organisé par le centre de recherche d'excellence Photonics and Quantum Technology, qui s'appelle le Dodd Walls, dont je fais partie. Donc il y avait un événement aujourd'hui à Auckland, donc ça c'est un peu tard. Désolée de ne pas vous avoir prévenu plus tôt. Mais par contre, le 16 mai, donc Vector a installé plein de diodes de LED sur le pont. Et donc le 15 à minuit 1, il va être illuminé pour nous, pour le jour de la lumière.
D'accord.
Et puis le lendemain de 6h à minuit, donc c'est spécial jour de la lumière. Donc regardez le pont, ayez une pensée émue pour le laser et pour tous les gens comme moi qui travaillent et qui s'amusent avec des lasers et qui font de la recherche aussi. Hein, parce que c'est aussi pour montrer l'importance de la lumière. Donc il y a la recherche, mais il y a aussi le fait que les enfants peuvent lire, étudier, on peut travailler le soir, ne fût-ce que lire un livre, notamment. Donc par exemple, en 2015, quand il y a eu l'année de la lumière, un des projets, ça avait été d'essayer d'envoyer le plus possible de lampes solaires en Afrique, notamment pour que les enfants puissent lire, faire leurs devoirs.
D'accord, et travailler le soir.
Et travailler le soir, et ne fût-ce que vivre, pas spécialement travailler, mais lire.
Ouais.
Pour un enfant, c'est quand même important.
Ouais.
Donc, le 16 mai, c'est à partir de cette année, ce sera la journée de la lumière. C'est une journée mondiale. Il y a 500 événements à travers le monde qui sont prévus. Donc, il y en a au Mexique. Il y a un site web qui reprend tous les événements mondiaux qui s'appelle lightday.org. Et alors, pour la Nouvelle-Zélande, il y a dayoflightnz.org. Donc ça, c'est pour avoir les événements qui se passent en Nouvelle-Zélande. Donc mercredi, regardez le pont à Auckland. Le week-end prochain, il y a un événement à Otago aussi pour les enfants. Et début juin, il y a Lab in the Box, qui en fait, c'est un conteneur où il y a plein d'expériences, qui sera à Queenstown. Et celui-là, il bouge. C'est Lab in the Box. Il est pas que on le sort pas que le jour de la lumière. Il était il y a quelques mois devant le Te Papa, par exemple.
D'accord.
Donc ça, c'est un conteneur qui bouge dans le pays.
Non, super.
Pour essayer de. Donc l'idée de tous ces jours, de toutes ces journées, c'est en général spécial enfant. Il y a plein d'expériences. Ils peuvent jouer. avez...
Oui, parce qu'en fait, la génération de nos enfants, de même que pour nous, ce sont des, c'est quelque chose de dû, presque, la lumière. On s'en est rendu compte au moment de la tempête. Pour les gens, moi, je sais que j'ai pas eu d'électricité pendant 24 heures. De plus avoir de lumière, tout d'un coup, on se rend compte qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on trouve tout à fait naturel. Et c'est bien de temps en temps de se souvenir.
Ouais, et donc, c'est un peu tous ces aspects-là que la journée de la lumière... Donc, il y a énormément de scientifiques qui en profitent pour attirer les enfants vers la lumière. Mmh. Mais c'est aussi l'occasion de faire des levées de fonds pour des problèmes plus basiques et plus importants, peut-être.
Ouais, ouais.
Apporter de la lumière à des enfants ou à des familles. Ouais. Parce que, ouais, vivre dans le noir, ça... C'est pas très drôle.
Ouais. Ou tu te couches avec la lumière, j'imagine.
C'est ouais, tu te couches avec la lumière, mais quand il fait noir à 6 heures.
Ouais.
Ben ça va. Enfin, il y a quand même des pays où les journées peuvent être très courtes.
Oui, c'est vrai. Donc, en Norvège, sans lumière, ils peuvent dans la nuit, ce sera donc pas très drôle. Bon, bah très bien. Alors, on regardera tous
le site,
le pont. On peut peut-être vous envoyer on va vous mettre les références sur Twitter tout de suite.
Ou sur Facebook.
Et sur Facebook en même temps.
Voilà, mais donc, lightday.org, ça c'est le site mondial. 500 événements. Donc, partout dans le monde, il y a sûrement un événement près de chez vous. Je crois même qu'il y en a à Perth pour Charlotte. Mmh. Il y en a plein en Australie. Il y en a quelques-uns en Australie aussi. Il y en a plein en France. Et puis en Nouvelle-Zélande, bah, il y en a 4-5, ce qui est déjà pas mal vu.
La taille de la
Nouvelle-Zélande. Ouais. Et la plupart sont organisés, en fait, sponsorisés par notre centre de recherche.
D'accord.
Et l'idée, c'est vraiment d'expliquer à tout le monde l'importance de la lumière et puis que les enfants s'amusent aussi.
Ouais.
Donc, si vous êtes à Otago le week-end prochain et que vous ne savez pas quoi faire, allez voir Enlighting, je crois que ça s'appelle l'événement. Et puis après à Queenstown.
D'accord, très bien. Bon, ben, voilà. Merci beaucoup. C'était une petite note, petite musique pour nous.
Bah oui, en parlant de lumière, il y avait un beau coucher de soleil ce soir.
Oui, magnifique. En venant ici, effectivement, très très beau. Mmh.
Eh ben, par exemple, une technique qui est utilisée en spectroscopie et aussi pour amplifier la lumière que vous utilisez tous les jours pour avoir Internet. Donc la façon dont est amplifié le signal, c'est grâce à un effet qui s'appelle Raman, qui est le premier asiatique, en fait, donc indien, à avoir un prix Nobel. Et sa première expérience, parce qu'il n'avait pas de laser, il l'a fait avec le soleil. Alors forcément, en Inde, c'est plus facile.
Ouais.
Comme je disais toujours, j'ai fait ma thèse sur cet effet-là. Ouais. En Belgique, ça n'aurait pas été possible, je pense. Mais il a réussi. Et bon, c'était une expérience, c'est un tour de force. Ouais. Mais maintenant, on fait ça avec des lasers et c'est plus facile.
Oh, super.
Voilà.
Allons-y. On tourne dans les années 80.
D'accord.
Dans le noir qui déchirent, qui éclatent. Un regret, un remords, le cafard qui suffoque, qui me blesse. De l'amour, de la peur, du mépris qui trahit, qui détruit.
Petit flashback dans les années 80.
C'était qui alors?
C'était une artiste qui s'appelle Do Piano. Je connaissais pas dans les années 80.
D'ailleurs, j'ai découvert
récemment.
Exhumé voilà. Des années 80.
Et c'est la version maxi 45 tours pour ceux qui. On revient dans les vinyles aussi.
Oui, et c'est là que les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître. Ça veut dire quoi, un 45 tours?
Ouais, surtout un maxi 45 tours, c'est...
Un maxi 45 tours, on précise. Ouais.
Alors moi, je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Human Flow. Et donc, en fait, c'est un documentaire d'un artiste qui s'appelle Ai Weiwei, W-E-I. C'est un artiste chinois. Donc, en fait, l'idée, c'est que le synopsis, c'est que plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre. Il s'agit du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça a été réalisé par cet artiste. Qui est aussi sculpteur, il est sculpteur, photographe, performeur, blogueur. Et d'ailleurs, il s'était déjà attelé à travers plusieurs installations à évoquer le drame de cette humanité déplacée. Notamment, toi qui voyages beaucoup, tu l'as peut-être vu, la loi du voyage, un canot pneumatique long de 70 mètres, avec à son bord 258 figures de réfugiés. Ou lorsqu'il a. Donc, ça, c'est ce truc-là, il me semble qu'il était aussi à Sydney, parce que donc c'est une installation énorme, hein, très 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 impressionnante. Il a aussi entassé dans une salle de concert berlinoise 3000 gilets de sauvetage échoués sur l'île de Lesbos. Donc voilà, du coup Humanflow, ça prolonge assez naturellement ce travail. C'est
un truc que j'avais vu, c'était une carte où ils avaient dessiné des petits points rouges pour chaque victime qui avait essayé de travailler. Donc c'était une carte de la Méditerranée, ouais. Et où ils avaient essayé de faire un point par victime recensée.
D'accord.
Et en fait, ils avaient essayé de plus ou moins faire à l'endroit où on avait repêché les corps. Et donc l'impression qu'on avait de cette peinture, c'est que tu avais l'Afrique qui saignait comme ça, enfin la côte nord de l'Afrique qui saignait dans la Méditerranée.
Ouais, d'accord.
C'était beau, mais c'était il n'y a pas si longtemps.
Ouais, et c'est important aujourd'hui d'avoir ce genre de travail, parce qu'il y a quelque chose. Déjà, il y a l'information vient par les journaux télévisés, donc c'est des images flash. Ça déshumanise complètement le problème, en fait. Plus les idées politiques qui vont autour aussi, qui ont tendance à complètement stigmatiser la chose et la transformer en quelque chose d'impersonnel. Ces travaux-là sont super importants.
En parlant des réfugiés, donc la plupart viennent pour l'instant de Syrie, d'Éthiopie. Il y en a beaucoup en Europe. Et Julie, une ancienne de la radio, il y a le fameux parc Massimilien où il y en a beaucoup qui dorment la nuit. Et donc, il y a tout un mouvement citoyen en Belgique pour l'instant qui essaye de les héberger. Julie en fait partie. Et en fait, ce qui est hallucinant, je lisais un article l'autre fois, c'est que ça coûte 150 euros de les garder en centre fermé et 40 euros de les héberger en centre ouvert.
Oui, d'accord.
Mais il y a quand même encore des politiques qui préfèrent les garder en centre fermé. Ouais, c'est des gens qui... Enfin, la Belgique a vraiment... Enfin, certains politiciens sont... Pour l'instant, ils les ont renvoyés et ils se sont refait torturer après.
Quoi. Oui, d'accord, super.
Voilà, c'est autre chose.
Donc, voilà. Alors, donc, ce documentaire, comme je le disais, ça prolonge naturellement son travail sous forme cinématographique. Lui, il a été assigné à résidence en Chine, hein, emprisonné dans son pays avant de pouvoir sortir du pays en 2015 et de s'exiler dans la capitale allemande. Donc, c'est quelqu'un qui connaît, qui a vécu... Bon, qui connaît un peu le problème, on va dire. Pour sortir du dispositif de l'installation et entrer de plein pied dans le documentaire, pour rendre compte d'un tel phénomène, en fait, ils ont eu pas moins de 200 techniciens postés dans plus de 23 pays, 7 monteurs. Je fais du montage, j'imagine bien qu'ils ont en fait plus de 1000 heures, ils ont eu plus de 1000 heures de rush, donc c'est un travail quand même énorme. Et donc, en fait, il y avait vraiment l'idée, un désir d'exhaustivité que certains trouvent un peu trop de type catalogue, justement, parce qu'ils essayent de couvrir le plus de cas possible. Mais aussi, c'est aussi une vision, en fait, à très grande échelle et dans l'intime. Et donc, c'est un petit peu la particularité de ce travail-là, dans la façon dont ça a été filmé aussi. Donc, alors, pour les pays, Afghanistan, Bangladesh, Irak, Israël, Allemagne, Kenya, France, Grèce ou Italie, donc voilà, ils ont vraiment fait...
Ils ont filmé les gens qui partent et les gens qui arrivent.
Ouais, ici, en fait, c'est une grande... C'est vraiment... Ça a été un dispositif vraiment pour couvrir de façon exhaustive, hein, vraiment le sujet. Et donc, tout autour de la planète, on voit des camps de réfugiés, des endroits où l'on est nulle part, où sévissent la peur et le désespoir. Et donc, on a l'impression que là, on est justement dans un endroit où il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'intimité. Donc, ils touchent vraiment du doigt cette chose qui est profondément humaine pour nous. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, donc ce film-là, moi, je l'ai pas encore vu. Je bave dessus depuis un moment parce que j'ai vu les bandes annonces, etc. On vous mettra sur la page Facebook la bande annonce. Il passe à l'Académie Cinéma ce mercredi à 20h.
Vous regardez un petit coup le Harbour Bridge pour vous mettre de bonne humeur. Exactement. Et puis après, vous allez.
Ou alors l'inverse, pour te remonter le moral, tu regardes les lumières.
Parce
peut-être.
Que ce sera éliminé jusqu'à minuit. Donc,
voilà, très bien.
C'est où, Académie Cinéma?
Et c'est celui qui est près de la bibliothèque centrale?
C'est près d'Albert Park.
Alors, ce qui se passe, c'est que ça, il y a eu des, ils filment avec des drones. Donc, c'est du Artus Bertrand version
marée humaine.
Version marée humaine. Donc, il y a ça. Donc, il y a une espèce de vision d'ensemble et également beaucoup de rencontres intimes avec des personnes. Donc, on voit vraiment. C'est assez intéressant, en fait. Je pense. D'avoir cette vision qui va être macro et micro. Et c'est un petit peu ça, notre vision de la chose. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain et qu'être qui prenne les informations qu'on veut bien nous donner, on voit que du snapshot, en fait. On voit que des trucs très rapides. Et là, ça nous permet vraiment de voir, un, l'ampleur du problème, et deux, la réalité intime, humaine de la chose.
Justement, Julie, là, qui fait partie de ce mouvement citoyen, ils ont une page Facebook. Dont je fais je suis un membre de, bien que je n'héberge pas puisque j'habite un peu loin, mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a énormément d'hébergeurs qui mettent qui racontent leur histoire. Et notamment il y a pas mal des hébergeurs de toutes sortes, mais c'est poignant d'entendre les histoires qu'ils entendent des réfugiés qu'ils accueillent. Et l'échange aussi, en fait, ça se passe assez bien, étonnamment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent très clairement qu'au départ ils ont peur parce qu'ils invitent des gens dont
ils parlent même, se faire rentrer dans son
ils invitent dans leur intimité des gens avec qui ils savent même pas parler parce qu'ils parlent pas toujours anglais, mais ça, la plupart du temps ça se passe bien.
Ils arrivent
ils sont aussi très traumatisés, faut savoir que ils mettent du temps à s'ouvrir apparemment. Mais puis il y a des belles histoires et puis il y en a qui sont reprendre.
D'accord. Est-ce que ce site, cette page Facebook, on peut y aller ou faut être invité?
Il faut être invité.
D'accord. Donc c'est pas une page publique,
c'est plateforme citoyenne, mais ils sont assez ouverts.
D'accord. Donc,
plateforme citoyenne, ça s'appelle. Mais je pense qu'il y a des mouvements similaires dans d'autres pays.
Ouais. D'accord. Bon, très bien. En tout cas, si le sujet vous intéresse, je pense que ça vaut le coup d'aller le voir. En tout cas, moi, j'y serai.
Quelle heure? Donc 20h.
C'est à 20h, oui.
Tu rappelles le titre?
Donc, ça s'appelle Human Flow.
Voilà.
Et c'est à l'Académie Cinéma, le 16, mercredi, à 20h.
Voilà. Cool.
Et il faut prendre des billets à l'avance?
Moi, je vais le faire parce que ça passe pas souvent. Donc, je me suis dit que j'allais les prendre ce soir, en fait.
Voilà.
Donc voilà.
Puis c'est un show de cinéma, l'Académie.
Ils passent des très bons.
Ils passent pas en général le dernier Hollywood. Hein.
Non, exactement. C'est ce qui en fait un bon cinéma, je dirais. Est-ce que tu nous mets une autre petite musique?
Allez, on est parti.
C'est
parti.
Dans le port de Saïgo, est une jambe chinoise, mystérieuse et sournoise. Le soir entre bon, quand la nuit se fait complice, les Européens se visent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fugue, qui monte au ciel, dis-moi toi, qui nous aime. Tour à tour, mais le soir au parfum lourd, au gré de de la fumée lente, le fumeur se représente, les plus beaux rêves d'amour. Opium, poison au rêve.
Jacques Dutronc accompagné de Bambou.
Ça date de quand cette chanson?
Alors là, je ne pourrais pas te dire. Ça date un petit peu quand même, du siècle dernier, je pense.
Et ça s'appelle comment?
Opium.
Opium, ah oui.
Okay. Nom du parfum.
Mmh, bien sûr. Hein? Ok, oui, oui. Venant de Bambou, ça ne m'étonne pas. Donc, ok, très bien. Bah, écoutez, après les flots migratoires, l'orientation, hein. On va pas faire de mauvais jeu de mots en disant qu'il faut savoir s'orienter quand on est réfugié, mais bon.
Tu vas nous parler de l'orientation vers la lumière, c'est ça?
Ouais, non. En fait, donc, aujourd'hui, j'ai fait ma première rogaine. Alors, je suis pas sûre de savoir exactement ce que c'est. En gros, donc, il y a 3 rogaines qui sont organisées aux alentours de l'Auckland. Celle-ci, c'était la 2e, au lac Caretta. Donc, c'est un peu plus loin que les sources Parekai, pour ceux qui aiment l'eau chaude. Ah. Et donc, en fait, c'est de l'orientering. Alors, et donc, une rogaine. Comment ça s'est passé? C'est que ça commence à 11h, mais à 10h30, on vous donne votre carte. Avec là-dessus, sur la carte, il y a 30 balises qui valent. Donc, il y a des balises avec un 3, hein, des balises avec un 4 et des balises avec un 5. Donc, c'est là, 43, elles valent 30 points, 40 points, 50 points, logique. Et donc, les 30, c'est les faciles, les 40, c'est les moyennes, et les 50, c'est. Et c'est un peu plus compliqué. 50 points. Et on a 1h30 pour faire le plus de tags. Donc, nous, on était une équipe de 4 mixte. Alors, on a un peu triché parce qu'on était 3 madames d'un âge raisonnable, on va dire. Mais une d'entre elles avait apporté son fils. Donc, c'était notre arme secrète. J'avais un peu l'impression d'être le chien qui court derrière un lièvre, la fille qui ne le rattrape jamais. Donc, notre arme secrète. Et en fait, on l'envoyait parce que parfois, les tags, ils sont en haut d'une petite butte.
Ah oui, d'accord.
Donc, nous, on l'attendait bien sagement au bas du chemin et on disait, c'est par là, je vois le drapeau, allez, vas-y, vite. Mais on a quand même fini dans le bon milieu de notre catégorie mixte, tranquillou. Donc, on a fait 440 points. Ça veut dire qu'on a fait 11 balises. Enfin, moi, j'ai dû abandonner avant les deux dernières parce que je me suis pris une branche et je me suis ouvert le front.
Comment t'as fait ça
Parce qu'on cherchait là une balise qui était un peu difficile. En fait, elle n'était pas très difficile si on avait pris le bon côté.
Vous ne l'avez pas envoyé à chaque fois, en fait. Des fois, vous y êtes allé quand même.
Ouais, mais là on l'aidait parce qu'on savait, on la voyait pas, donc il fallait quand même qu'on la trouve avant de l'envoyer. Parce qu'on n'allait pas le perdre non plus, quand même, hein, ouais, le pauvre. Donc nous, on a fait 440 points. On est rentré 5 minutes avant la fin du temps. Parce que si vous arrivez trop tard, il y a des pénalités. Mais il y a des gens de tous les âges. Hein, donc il y avait des madames jusqu'à 60 ans. Il y avait des gens jusqu'à 60 ans. Il y avait pas mal de gens qui les faisaient avec des petits-enfants. Il y avait un papa très courageux qui les faisait avec un sac à dos et son bébé dans le dos.
Ah oui, quand même, il y a des...
Et alors, le champion de Nouvelle-Zélande, je pense. Je crois qu'il est champion de Nouvelle-Zélande. Lui, il nous a quand même fait 1200 points. C'est-à-dire qu'il a fait toutes les balises, donc les 30 balises, y compris les 10 très, très difficiles, que nous, on n'en a fait que 2, les difficiles. En 72 minutes. Voilà.
72 minutes.
72.
Ah oui, d'accord.
Donc une heure et une petite raouette.
Ah oui, d'accord.
Donc quand nous, on est arrivé rouge pivoine, juste 3 minutes avant la fin du chrono, ben lui, ça faisait 20 minutes qu'il buvait son café. Quoi. Voilà. Et donc, l'autre fils de ma copine, en fait, il fait partie d'une équipe dans son école. Et il a participé au championnat du monde l'année passée en Italie. Et donc là, il essaie de se qualifier pour les championnats de l'année prochaine qui seront en Estonie.
Oh waouh.
Donc lui, il a fait 1030 en 1h25.
Mais est-ce que ça change si tu fais pas ça en ton pays, justement, ou parce que...
Mais en fait,
c'est le tien, tu dois savoir comment fonctionnent les choses plus que...
Non, parce que les règles d'orientering, elles sont fixées mondialement. Tu reçois ta carte à une demi-heure pour trouver.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu connais la nature, tu sais que... Est-ce que ça change? Tu crois que ça donne un avantage?
Mais en fait, lui m'a bien, il nous a montré comment... En fait, il savent vraiment bien lire les cartes. Et donc, il voit, par exemple, il dit... Celui que nous, on n'a pas trouvé et que je me suis pris une branche, il dit « Ah, mais ça, c'était facile, c'est parce qu'en fait, il y a un changement de végétation, donc tu trouvais, tu voyais là où la végétation changeait, et puis tu suivais la ligne, et puis tu y arrivais tout de suite. Genre, enfin. » Et bon, donc, ouais. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est un truc que tu peux faire en famille, entre copines, comme nous, on a fait pour la fête des mères. Et puis, et alors, pour ceux qui veulent juste... Nous, ce qu'on a fait 2-3 fois en famille, et qui est sympa à faire, là, c'est fini. Mais le club d'Auckland, donc Auckland Orienteering, organise ce qu'ils appellent les Summer Nav. C'est un soir de la semaine. C'est de novembre à mars, je crois. Chaque semaine, c'est un endroit différent. Donc, il y en a en général 4-5 dans votre région. Donc, par exemple, moi, j'habite Mont-Albert. Donc, il y en a une à Auckland Unitech, une à Domaine, une à Western Spring. Et là, c'est très familial et tu peux choisir. Il y a 4 niveaux de difficulté. Donc, il y a 2 quais. On l'a fait une fois avec nos enfants en poussette. Il y a très longtemps.
Ouais.
Donc tu peux faire 2 km, 5 km et puis tu peux faire fou furieux 15 km en courant.
Ouais.
T'es pas obligé de courir, hein, c'est déjà ça. Et donc voilà. Mais donc le fils de ma copine qui vise les championnats du monde, lui il a fait 1030 points en 1h25.
Ouais, pas mal.
Voilà. Alors ouais. Il nous a regardé, il a fait non mais c'est pas mal hein, pour des débutants. Enfin voilà. On s'est pas perdu, on savait toujours où on était, c'est déjà ça.
Ouais.
Hein.
C'est la première fois que tu faisais ça ?
C'est la première fois que je faisais une Rogue End. J'ai déjà fait 2-3 fois les Summer Nav avec mes enfants.
Ouais.
Mais là, ça faisait 1 ou 2 qu'on n'avait pas fait. Mais c'est très sympa, c'est une bonne façon de passer du temps. Je peux envoyer le site web pour voir les autres événements. Et il y en a encore une qui sera en juin et qui sera à Wood Hill Forest. Voilà. Et
d'accord.
Qui sera le 17 juin. Wood Hill Forest. Donc, ça commence toujours à 11h. À 10h30, ils donnent les cartes. C'est bien d'arriver un peu avant pour s'inscrire et prendre le petit toggle, là. Donc, parce que c'est très électronique maintenant. Donc, tu fais tic-tic.
Moi, je veux bien y participer.
Ouais.
C'est vrai. Ouais.
Plutôt pour prendre des photos.
surtout à l'arrivée, non ?
Mais en fait, tu peux faire soit
en
individuel ou bien par équipe.
Ouais.
Jusqu'à 4.
Mais ça doit être plus sympa en équipe, non ? Enfin, j'imagine que si t'as la niaque et tu veux aller vite,
ouais,
seul,
c'est ça.
Bien,
t'as les champions, là, ils font en individuel et puis t'as ceux qui font ça pour le fun. Et puis t'avais pas mal de gamins, quoi. Du coup, il y avait un Lolly Scramble à la fin.
Parce que c'est quelque chose qu'on pratique en école aussi.
Ouais. Ben, donc là, il y avait pas mal de gamins d'école parce que, donc en fait, pour se qualifier pour les championnats du monde, donc ils regardent les scores de toutes les écoles et puis ils choisissent quelle école pourra choisir son équipe. Donc,
ah oui, d'accord.
Donc lui, je sais qu'il... Enfin, je sais pas si cet événement-là comptait, mais il y a des événements qui comptent. Je connais pas tout sur l'orientering. Mais c'est très fun, c'est
d'accord.
Très drôle. Enfin, nous, on l'a fait tranquille. On a fait 11 balises sur 30.
Ouais, voilà. Écoute, moi je crois que j'aurais fait bien moins que 11, hein. C'est pas mal déjà. Hein.
Faut être en forme quand même. Ouais.
Bon, on n'a pas couru beaucoup. Hein.
Ah.
Bon, on a couru un peu.
J'ai discuté quoi.
Ben non, on a
moi,
essayé de pas se perdre.
J'imagine qu'avec Fred, ça doit être orientering et discussion.
Non, non, c'était un peu du genre, t'es sûr qu'on est là? Ouais, ouais, non, je te jure. Et alors, mais non, regarde, si.
Et vous avez eu beau temps en plus.
Ouais, il faisait super beau, il faisait même trop chaud, on avait tous un peu chaud.
Ça veut dire qu'il fait chaud hein, pour la saison.
Tout à fait.
Oui, exact, c'est ce que je me disais aujourd'hui.
Ouais. Ouais. Bah, nous, on avait toutes peur d'avoir froid, donc on était habillés un peu chaudement.
Ouais. En plus, quand tu marches assez vite, tu dois bien vite chauffer.
Ouais, ouais. Ce qui était bien, c'est que du coup, c'était pas trop boueux, c'était pas loin de la mer, là, aujourd'hui, au lac Carreta. Et donc, c'était assez sableux, c'était pas boueux, c'était sympa.
Okay. On devait avoir la tempête qui est passée en Australie, on n'a rien eu du tout. Hein.
Ouais.
Enfin, on a eu un peu de pluie hier, mais voilà.
Ouais, les tempêtes ici, c'est un peu, quand on te prévient, tu les vois pas venir, quand on te prévient pas, tu t'en prends une.
Voilà. Voilà.
Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait plein de spot prize et tout. Enfin, nous, on n'a rien gagné, mais comme d'habitude, ouais. Mais il y avait pas mal de trucs.
Ah, mais super. Surtout.
Et puis, il y avait du jeu organique aussi. Tous les vainqueurs ont eu du jeu organique. Ah, bon, nous, on était 20e, je crois, dans notre catégorie.
Bon, bah écoutez, voilà. On vous met l'adresse du site pour si vous voulez vous faire ça. On va mettre ça sur Twitter. Alors justement, en parlant de Twitter, on se modernise, hein, on va dire les choses comme ça. On est maintenant sur Instagram, Twitter et Facebook, et donc on essaie de vous donner au fur et à mesure de l'émission nos informations.
Voilà. Et on est toujours à la recherche de gens si vous avez envie de venir parler.
De parler et ou de faire de la technique aussi, hein, parce que c'est vrai que
on vous forme d'ailleurs.
Ouais.
Ouais. Musique ?
Ouais.
Musique.
plaisir d'écouter cette musique aussi. J'adore tes sélections, Yvan, elles sont toujours géniales.
La voix de Nene Cherry et Yusundo.
Ouais.
Excellent duo.
Ouais, ouais, hein? Très très beau, super.
Ça date aussi un petit peu.
Ouais, ouais, mais
on
bon.
On fait pas dans le moderne aujourd'hui. Hein.
Non, on fait pas dans le moderne, mais avec grand plaisir, tout ce qu'on écoute, c'est super.
La qualité d'antan.
Voilà. Alors, moi, je vais vous parler de mon petit festival que j'aime tant, le Auckland Writers Festival, qui va avoir lieu du 16 au 20 mai 2018 à Otea Center. Donc c'est là, il y a quelques conférences qui ont lieu à la Auckland Gallery, mais bon, dans l'ensemble, tout se passe à Otea Center. C'est un événement à chaque fois avec beaucoup de têtes blanches, pas seulement des têtes comme toi Fred, mais des têtes blanches qui sont blanches en raison de leur âge. Donc c'est marrant, il y a des événements pour les écoles, etc. Mais j'ai toujours été très étonnée de voir qu'il y a très peu, il y a quelques étudiants, mais il n'y a pas tellement de gens. Bon, alors ça se passe, il y en a pas mal qui se passent en semaine, donc il y a pas mal de gens qui bossent, mais ouais, c'est quand même, ça reste un événement que les personnes qui ont du temps vont voir, alors que c'est quand même vraiment génial.
Ben moi, j'avais été étonnée parce que j'avais été voir, c'est pas Gloria Gaynor, c'est la féministe qui s'appelle Gloria Stein.
Ouais, je ne vais pas pouvoir t'aider là, je crois.
Stenner. Bref. Et là, il y avait pas mal de jeunes. Il y avait presque que des femmes dans la scène, mais il y avait pas mal de jeunes.
D'accord,
Mais du coup, c'était très politique. Et c'est vrai que ça. Enfin, moi, je ne vais pas autant que toi au Writer Festival, mais c'est l'occasion de voir des gens qui viendraient jamais en Nouvelle-Zélande.
Ouais, il y a des quand même. Alors, et ce qui se passe aussi, c'est que c'est quand même ça est très très étendu. C'est-à-dire qu'il y a de la fiction, il y a du documentaire, il y a du politique,
il y a de la science,
C'est vraiment, c'est très 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 très. Il y a la poésie. Mm-hmm. Donc c'est vraiment très large. Il y a aussi des événements. Il y a des lectures de poésie, des lectures de textes. Il y a des concerts.
Il y a même des événements pour les enfants.
Il y a des événements pour les enfants. Il y a des ateliers aussi d'écriture. Donc c'est un festival qui est vraiment complet. Et
c'est énorme aussi. Hein.
C'est gros aussi, ouais. Et ça a de plus en plus de succès. J'ai toujours trouvé que c'était un peu cher. Mais ils ont des événements gratuits, dont Viti et Mara. Donc je vous parlerai de lui un petit peu en fin d'émission. Alors par exemple pour cette édition là, il y a aussi quelques écrivains étrangers qui sont là.
Mais c'est cher, mais il faut. Nolwenn m'avait une fois expliqué, c'est quand même une énorme logistique. Hein.
Alors ils ont aussi beaucoup de gens bénévoles qui aident. Ils ont vraiment une équipe de gens qui sont passionnés et qui les aident. Donc voilà, alors, par exemple, juste un petit aperçu, il y a Paula Morris, je sais pas, qui est très connue, elle a été connue pour Rangatira surtout, et elle est là pour parler de Falls River. Donc elle écrit beaucoup, elle fait des essais, etc. Donc elle sera là le samedi 19 mai de 2h30 à 3h30. C'est aussi elle qui interrogera Viti le dimanche, mais ça, encore une fois, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Il y a Karl Ove Knausgård, qui est un phénomène littéraire norvégien, donc il sera là, et qui parlera de romans autobiographiques, My Struggle, Mein Kampf. Voilà. Et donc lui, ça aussi, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Parmi aussi ce qui se passera à la Auckland Gallery, il y a notamment Writers on Film, Oné Tufare. Donc ça va être le dimanche 20 mai de 11h45 à 12h35 à la Auckland Gallery. Et en général, à l'Auckland Gallery, c'est souvent des conférences qui sont en relation avec de l'art, du cinéma, enfin des choses artistiques. En général, ça se passe avec eux. Et puis, qui j'ai d'autre aussi Donc voilà, écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va vous mettre le lien du site. Vous pouvez voir ça en ligne. Vous pouvez acheter. Alors, c'est possible d'acheter un pass pour pouvoir voir plusieurs écrivains. Et juste après la musique, je vous parlerai de Viti Imaera, qui donc lui a un événement gratuit, un spécial événement gratuit le dimanche 20 mai de 6h à 7h. À mon avis, il va falloir arriver très tôt pour avoir de la place.
Ouais. Et ah donc, c'est Anne-Sophie qui reviendrait bien en Nouvelle-Zélande, du coup.
Ouais. Donc, oui, bon, on disait qu'on aurait pu en parler avec elle, c'est dommage. En tout cas, voilà, je vous en parlerai un petit peu plus après la musique.
Des psychopharmaca. C'est pire qu'un crime, c'est une faute. Tu aimerais bien venir chez moi pour discuter le désastre. Mais je prends jamais des psychopharmacas. Je ne peux pas supporter. Mais il ne faut pas renoncer. Mais je ne prends jamais des psychopharmacas. Et je pense qu'il faut boire quelque chose. Et puis il faut aussi acheter des trucs pour les petits gamins, hein, des saucisses. On se souhaite une bonne journée. Au revoir. Ah, un docteur. Et si on aime l'être humain, on peut être meilleur. Mais je ne prends jamais des psychopharmacas. Et si on aime l'être humain, on peut qu'être un bon docteur.
Burger et Olivier Cadio.
D'accord.
Voilà.
C'est quoi comme année là? C'est 90 ans, non?
C'est assez récent, je pense.
D'accord.
Ouais.
Donc, je voulais vous parler rapidement de Viti Imaera, qui est donc, pour ceux qui ne vivent pas en Nouvelle-Zélande, ne connaissent peut-être pas, mais c'est un des écrivains les plus importants ici.
C'est Will Ryder, quand même.
Ici-bas, bah, oui, on remarque par le film, oui, c'est vrai, t'as raison.
Il est connu dans le monde entier.
Donc, c'est le premier Maori écrivain à avoir publié un livre de nouvelles et également un roman. Il a écrit plus de 30 livres pour adultes et pour enfants, ainsi que des pièces de théâtre, des scripts, des essais et aussi des livrets, donc d'opéra. Il est né à Gisborne et il a fait pas mal. Il est professeur de creative writing à l'université d'Auckland, comme Paula Maurice d'ailleurs, qui va être la personne qui va l'interroger au Writers Festival.
Et d'ailleurs, c'est l'université d'Auckland sponsorise, à mon avis, c'est pour ça aussi.
Ce qui se passe aussi, c'est que c'est vrai aussi que les professeurs d'écriture créative en général sont les meilleurs écrivains. Enfin, tu vois, il n'y a pas que les meilleurs écrivains, mais en général, c'est des écrivains avec quand même une certaine stature dans le monde de l'écriture. Alors, c'est un personnage qui est intéressant. Moi, quand je suis la première fois que j'ai lu quelque chose de lui, je vous en parlerai un petit peu. Donc, alors déjà, le fait qu'il soit maori, c'est quelque chose d'important parce que son écriture, elle se situe là. Il dit the world I'm in as being Maori, not European. Donc vraiment, il insiste sur cette spécificité de son travail. Et il a une façon de décrire la vie, la société maori d'aujourd'hui, et puis à partir du moment où il a écrit, donc ça date de plusieurs années.
C'est pour ça qu'Anne-Sophie s'était intéressée à lui, puisqu'elle faisait vraiment la littérature du Pacifique, d'accord, en français et en anglais. Ouais. Elle avait même, je pense qu'elle l'avait interrogé.
Ouais.
Enfin, elle l'avait rencontré en tout
d'accord
cas.
Et la plupart de ses fictions sont bien entendu s'appuient sur des faits, mais on peut pas vraiment dire que c'est simplement autobiographique. Il a vraiment une façon de manier les événements, etc. Donc il y a un vrai travail d'imagination dans un environnement qui lui est familier. Donc il a été à l'université de Gisborne, il a été à l'université d'Auckland aussi, je parle en tant qu'étudiant, en 66. Ensuite il est retourné à Gisborne, il a travaillé comme journaliste, puis à la poste. Et ensuite il est retourné retourné faire des études à Wellington en 69, où il était à la Victoria University. Donc il a fait pas mal d'allées et venues. Très tôt, bien sûr, il était intéressé par l'écriture. Il se souvient d'avoir écrit des murs entiers d'histoire dans sa chambre. Et donc il a commencé à écrire sérieusement, entre guillemets, en 69, avec sa première histoire, The Liar, qui a été acceptée par le New Zealand Listener. Donc ça, c'était en mai 70. Et donc très très vite, cette possibilité de pouvoir exprimer sa maoriness, on va dire, a été important pour lui. Et il a édité en 1970, il a écrit, publié, je vais y arriver, Punamu Punamu. Donc c'est une collection, j'ai du mal à parler en français. C'est un recueil de nouvelles en fait. Et c'était la première fois, quand je l'ai lu, la première fois depuis longtemps que je pleurais de rire en lisant. Parce que ça n'arrive pas souvent, en fait, de rire en lisant et de pleurer de rire encore moins.
Non, c'est clair.
Et il décrit notamment un match de cricket improvisé dans son village où tout le monde finit par... Parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour jouer, donc tout le monde finit par y prendre part. Et c'est une façon de décrire les choses, mais drôle, vraiment extrêmement drôle. Donc il a une écriture vraie, vivante, qui touche. Et je trouve que même quand on est immigré ici en Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose de fort parce que ça... On connaît sans connaître, en fait, la vie maori. Et du coup, elle est vraiment vivante. Il arrive vraiment à la faire... ça perce les lignes et ça vous saute aux tripes, quoi. On ne peut pas être... ne pas être touché par ce qu'il écrit.
Oui, on sent que c'est écrit de l'intérieur. C'est pas écrire à propos d'eux, c'est écrit...
Tout à fait. De l'intérieur et en plus avec un talent de transformation imaginaire et puis un talent stylistique aussi qui rend la chose...
Mais il a beaucoup d'humour.
Oui. Mais bon, d'une façon générale, je trouve que de même que les Anglais ont beaucoup d'humour, je crois que les Maoris ont énormément d'humour aussi. C'est vraiment une culture qui est... ils ont un sens de l'humour que je trouve assez proche des British, en fait, leur façon.
Un peu satirique, ironique.
Oui. Dérisoire et d'autodérision.
Voilà.
Oui, t'as raison.
Comme les Belges.
Oui, mais c'est non, mais je crois que c'est là que ça se retrouve effectivement. Alors bien entendu, il a écrit The Matriarch, qui est aussi un roman qui a été publié en 1986. Alors bien sûr, il a des prix sur le chemin, mais moi les prix littéraires, c'est un truc qui m'énerve un peu, donc je préfère pas en parler. Et The Whale Rider, donc dont tu parlais, qui a été écrit en 1887, écrit quand même à New York et à Cape Cod dans l'espace de 3 semaines. Quand même l'affaire. Hein. Donc, non seulement un livre et bien entendu un film d'une grande, grande poésie. Hein. Les deux sont, c'est vraiment une très, très belle histoire. Donc, voilà. Alors, là, je trouve que c'est une chance. Alors, il a aussi Nights in the Garden of Spain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, comme je disais, il y a une trentaine de livres, donc il y a ce qu'il faut pour se régaler. Et donc, je crois que de le voir pour de bon, pour de vrai, et l'entendre parler avec Paula Maurice, ça va être un moment exceptionnel. Donc, ça sera donc au Writers Festival, Writers and Readers Festival, à ASB Center, à OTA Center.
Si vous voulez rencontrer Blondine.
Oui, voilà. Oui,
elle sera là.
And more importantly. Et donc, ça sera le dimanche 20 mai, et j'y serai définitivement aussi, parce que ça, c'est quand même quelque chose. C'est de 6h à 7h, et je pense que ça va être un moment exceptionnel.
Et d'ailleurs, le 20 mai, en fait, vous pouvez y passer la journée avec vos bambins et puis vous trouver quelque part pour les mettre pour aller voir.
Oui, ouais.
Parce que c'est la journée des enfants, donc il y a pas mal de trucs qui a l'air. J'ai vite regardé, j'ai copié sur. J'ai zioté le programme et ça a l'air sympa. Il y a même une session spéciale sur Margaret Mahy.
Oui.
Et la photo, c'est l'histoire du requin que mon fils adore et que j'ai lu des dizaines et
Tu vas être obligé d'y aller, il va falloir y aller. Oui.
Et donc, il y a même des événements pour les moins de 5 ans.
Okay.
Et je pense que tout est gratuit pour le jour des enfants. Donc, le 20 mai, je pense que la plupart des événements seront gratuits.
Oui.
Donc, c'est aussi le dernier jour. Hein. Donc, après ça, il faudra attendre un an si vous êtes rendu compte.
Si vous voulez retourner, oui, tout à fait.
Voilà.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup, merci Yvan, merci Fred, et on finit en musique encore.
Bah oui, un petit clin d'œil à Whale Rider.
Ah, très bien, super. Hein? Okay.
La musique originale de l'excellente Lisa Gerrard.
Super. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.
Bonsoir à tous.
Ciao.
It was waiting.